France Inter.
Explorer de nouveaux mondes étranges.
Je sentais souffler sur ma nuque le vent fou de l'aventure.
Eh bien moi j'y vais, je plonge.
Le temps d'un bivouac.
Patchouli, jasmin, vétiver, lavande, vanille, bois de oud, encens. Le monde végétal recèle des trésors olfactifs. Il a fallu des siècles, voire des millénaires aux humains pour apprendre à recueillir ces fragrances enivrantes pour les mettre en flacon. Encore aujourd'hui, ces essences naturelles apportent une touche de magie aux compositions des parfumeurs. Depuis une trentaine d'années, Dominique Roch parcourt le monde avec pour mission d'alimenter la palette des plus grands nez de la parfumerie. Il est ce que l'on appelle un sourceur. De jungle en désert, d'îles lointaines en montagnes reculées, il part en quête d'extraits de fleurs, de feuilles, de racines, d'écorces ou de fruits qui exhalent des senteurs exceptionnelles. Au cours de ses voyages, il a rencontré des hommes et des femmes dont il a pu admirer les savoir-faire immémoriaux. Cueilleurs de roses en Iran ou en Bulgarie, producteurs de bergamote en Calabre, gemmeurs de benjoin au Laos ou encore planteur de bois de santal en Australie. Dominique Roch raconte ses rencontres et ses découvertes dans un livre intitulé « Cueilleur d'essence » aux éditions Grasset. Cet après-midi, il nous emmène, nez au vent, dans un grand voyage à travers l'espace et le temps aux sources des parfums du monde. Thomas Lehété et Claire Tesser m'ont aidé à préparer cette émission. Stéphanie Texier la réalise avec à la technique aujourd'hui Adèle Caglard. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Le bronze, c'est un parfum, c'est fort. Tu sens comme ça, ça donne une énergie. Et c'est bien pour soigner plusieurs maladies comme ça. Pour la peau, pour beaucoup de choses, oui.
Ça me rappelle mon enfance, quand on s'asseyait tous ensemble comme ça. On prenait des roses, beaucoup de thé aussi. Et on avait plein de petits gâteaux secs qu'on adorait.
C'est du thé avec les roses. C'est délicieux, voilà. Chez nous, il y a beaucoup de roses. C'est pour ça que les gens utilisent pour tout. Pour le thé, pour le gâteau, pour les cheveux. C'est comme un parfum pour les femmes.
À chaque mariage, nous les femmes, nous nous réunissons pour cette tradition. On mélange le henné à la rose. C'est notre secret.
Des roses dans une vallée verdoyante en plein désert. Nous étions dans la vallée du Dadès au Maroc. Bonjour Dominique Roch.
Bonjour.
Vous avez travaillé 20 ans avec la rose à parfum. Vous avez été planteur de fleurs, distillateur, chercheur et acheteur d'essence de rose. Vous la connaissez, cette vallée des roses au Maroc?
Oui, bien sûr. C'est très émouvant d'écouter cette évocation parce que la rose, partout où elle s'implante, a quelque chose d'extraordinaire, de différent. Et au Maroc, elle est au bout de sa route vers l'ouest, de son long cheminement qu'il l'a vu partir de Shiraz en Perse. Et au fil des siècles, venir s'implanter contre toute attente, presque au bord de l'Atlantique, au Maroc, dans cette vallée qui a quelque chose d'assez inouï, puisque les roses poussent sous forme de petites haies qui entoure des petites parcelles de luzerne ou de blé, et tout ça dominé par les xours, ces édifices en terre crue, absolument magnifiques, qui finissent au fil du temps par fondre doucement, sans jamais totalement disparaître.
C'est une rose particulière, celle qui s'est imposée comme la rose à parfum?
Tout à fait particulière, on l'appelle la rose de Damas, ouais. Probablement parce que venue, donc encore une fois, de son origine de Perse, elle est passée par Damas au Moyen-Âge, où Damas était un centre incroyable de commerce international. C'est là où les croisés l'ont rencontrée, l'ont ramenée en Europe, l'ont hybridée. Le nom est resté, c'est la rose de Damas. Il y a une autre rose à parfum qui est celle de Grasse, qu'on appelle la rose de mai, mais la grande rose, celle qui fait peut-être 9 parfums sur 10 aujourd'hui, c'est la rose de Damas, et c'est celle qu'on retrouve dans le Dadès.
Ouais. Et ce sont justement les Perses qui ont inventé l'eau de rose au 8e siècle, vous le dites. Et la recette a l'air relativement simple de l'eau de rose.
c'est aussi simple qu'extraordinaire. Ouais. Finalement, c'est l'histoire des matières premières aromatiques, c'est celle de la capacité des hommes au fil du temps à capturer le parfum.
Ouais.
On s'extasie, une forêt sent bon, un bois sent bon, mais une fois qu'on a fait ça, alors on a commencé par brûler du bois, brûler de l'encens, et puis il y a cette découverte de dire, ben, si on fait bouillir des fleurs dans de l'eau, et qu'on condense la vapeur qui en résulte, on va obtenir une eau parfumée, au moins. Et c'est une découverte qui a précédé celle des huiles essentielles. Et donc les Perses se retrouvent maîtres de tout ce commerce de l'eau de rose. Et l'eau de rose, quelque chose d'absolument fabuleux, puisqu'elle va parfumer l'ensemble du monde islamique pendant des siècles. Ouais.
Et alors il faudra attendre 1000 ans pour qu'en Inde, on réussisse à recueillir l'huile essentielle, l'essence de rose.
Voilà. Presque, en fait, ce qui se passe, c'est quand on fait bouillir cette eau qu'on récupère, il y a une toute petite fraction qui n'est pas soluble et qui va progressivement décanter comme une petite pellicule dorée. Et puis, les deux tiers de l'essence sont solubles dans l'eau. Il va donc falloir attendre des techniques assez élaborées pour pouvoir capturer toute l'essence de rose dans l'eau de rose.
Ouais.
Et effectivement, c'est la découverte légendaire, mais je crois que c'est vrai, de Jahangir, l'empereur des Moghols en Inde du Nord. Lors de grands mariages, il faisait tellement chaud que finalement, cette essence, cette pellicule a fini par décanter sur les bains et sur les canaux. Et on a découvert l'essence qui a une odeur d'une intensité phénoménale.
Oui, c'est-à-dire qu'on concentre vraiment là, les parfums de la rose. C'est-à-dire que pour faire 1 kilo d'essence de rose, combien faut-il de roses ?
Alors, c'est un beau chiffre. Il faut 1 million de fleurs cueillies à la main pour faire 1 kilo d'essence.
Ouais. Ça donne aussi une idée de la valeur d'un litre d'essence de rose.
Bien sûr. Selon les époques, les modes, mais enfin, on a toujours comparé la valeur de l'essence à la valeur de l'or. L'essence en a presque la couleur et on a souvent eu la valeur.
Ouais, on parle bien de l'essence de rose.
De l'essence.
Aujourd'hui, dans l'imaginaire universel, la rose incarne le parfum, mais il y a bien d'autres essences et matières premières naturelles qui entrent dans la composition des parfums. Et c'est là votre métier à vous, Dominique Roch. Vous êtes ce que l'on appelle un sourceur dans le monde de la parfumerie. Quel est votre travail exactement ?
Bien, c'est assez simple. Dans un parfum, il y a des molécules chimiques et il y a des produits naturels. Alors pendant longtemps, la parfumerie n'a été que naturelle, pratiquement jusqu'au 19e siècle. Et puis ensuite, la chimie a inventé des molécules qui ont leur mérite, avec des notes qui n'existaient pas dans la nature. Mais les produits naturels restent un peu ce qu'il y a de plus beau dans une composition de parfum.
L'âme du parfum ?
Oui, on peut le dire comme ça. La complexité des essences et des produits naturels bouleverse les parfumeurs.
D'autant que certaines odeurs de la nature ne sont pas reproductibles de façon synthétique en laboratoire.
Ah, tout à fait. La rose est un très bon exemple.
Ouais.
On peut faire des odeurs de rose, mais dans une essence de rose, il y a plus de 250 molécules,
ouais.
Donc c'est pas possible d'en synthétiser la finesse et la richesse.
C'est aussi le cas du patchouli, on n'arrive pas à le refaire en labo.
Du patchouli ou du vétiver, exactement.
Ouais. Et alors là, c'est intéressant, parce que le patchouli, on aura l'occasion d'y revenir dans cette émission, mais c'est une feuille, le vétiver, c'est une racine, donc toutes les parties des végétaux sont potentiellement provisionneurs d'essence.
Oui, je crois qu'on peut dire de façon très simple, il y a 150 grands végétaux qui rentrent dans la palette des parfumeurs. Et quand on fait la liste, on s'aperçoit qu'on égrène presque le poème de Verlaine. Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches.
Ouais.
Il y a de tout.
Ouais.
On trouve toutes les parties du règne végétal, souvent de façon inattendue et tout à fait extraordinaire.
Et puis évidemment, ça demande un savoir-faire. Il y a par exemple le travail du gémage. Ça consiste en quoi le travail du gémage pour aller recueillir, là encore, des odeurs?
Alors là, formidable, on plonge vraiment dans les racines de l'histoire du parfum, c'est-à-dire c'est les parfums des arbres,
ouais.
Les arbres à parfum. Donc, le gémage, ça consiste à faire révéler par l'arbre ce qu'il tient secret quand on reste à l'extérieur. Et on va donc le gratter en général son écorce ou des formes diverses. Parfois, il faut le chauffer, il faut brûler en plus, pour le faire exuder de sa sève qui va s'appeler de la résine, du baume, qui va prendre des formes liquides ou des formes solides. Au fond, c'est faire parler l'arbre, c'est faire révéler à l'arbre son parfum.
Ouais. Ça demande vraiment un savoir-faire ancestral. Et vous avez notamment été à la rencontre de gemmeurs au Salvador, petit pays d'Amérique centrale, où là, effectivement, alors déjà, il faut grimper à plus de 10 mètres d'altitude avec une torche enflammée pour faire parler justement ces arbres. Vous avez vu un gemmeur à l'œuvre prénommé Franklin.
Dans notre région, l'extraction du baume, c'est le seul travail possible. Sachant cela, on s'est dit qu'il fallait absolument transmettre notre savoir-faire aux jeunes.
À plus de 10 mètres du sol, Franklin est sans filet. Sa seule sécurité, c'est sa corde. Il va maintenant brûler l'écorce, selon une méthode ancestrale, pour en recueillir la sève.
Tu vois, si le tissu est bien placé, le baume va bien imprégner tout le chiffon. Là, on est prêt à récolter le baume.
Bien. On en a suffisamment, là ? Fais voir. On a assez de matériel pour le pressage ?
Oui, bien sûr.
Très bien. Allez, on y va tous. Merci.
Ça a l'air assez incroyable, hein, le travail de ces hommes dans les arbres. Le baume qu'ils récupèrent ainsi se nomme le baume Pérou. Ça sent quoi, Dominique Roch ?
Alors, on appelle ça en parfumerie une odeur balsamique. C'est une odeur très chaude et très vanillée. Toujours formidable quand des arbres, c'est vrai pour le benjoin aussi, exudent des choses qui sentent la vanille. On s'y attend pas et c'est très prenant parce que c'est un mélange de notes boisées et de notes sucrées, de notes gourmandes.
Ouais. Mais alors là, ils montent avec une torche. Pourquoi ont-ils besoin d'une torche à 10 mètres de hauteur dans ces arbres ?
C'est une longue histoire. Chaque geste, ils ne font pas ça pour le plaisir, ils ne font pas ça pour prendre des risques, ils le font parce que chaque geste est utile et que c'est la meilleure façon de faire produire l'arbre. Si on ne chauffe pas la plaie, le baume n'exude pas, ou très peu. En chauffant, ils savent très bien pendant combien de temps, sur quelle surface, avec quelle fréquence, sans abîmer et sans altérer la vie de l'arbre. Ouais. Et c'est ça qui est formidable. C'est de voir ce savoir accumulé de génération en génération qui savent exactement comment s'occuper d'un arbre.
Ouais. C'est ça, parce que tout l'art, évidemment, c'est que l'arbre reste en vie. Hein. Ils font ça sur des arbres centenaires, parfois.
Exactement. Et c'est très émouvant. C'est les indigènes, bien avant l'arrivée des Européens, qui avaient découvert ça. Ils utilisaient le baume comme cicatrisant, comme médicament, comme très souvent les produits de la nature anciens. Et puis les Espagnols arrivent, regardent ça un peu interloqués, se rendent compte que ça sent extraordinairement bon, et ils vont se mettre à importer du baume du Pérou en Espagne.
Ouais. Dominique Roch, le travail de ces hommes et de ces femmes qui cueillent, récoltent, cultivent ces plantes dont on recueille les parfums vous passionne. Vous vouliez rendre hommage avec votre ouvrage à ces cueilleurs d'essence. Vous allez nous emmener à leur rencontre. Lavande, jasmin, bergamote, vanille et bois de oud, nous partons le nez au vent, humer les plus envoûtants parfums du monde. Avec vous, Dominique Roch, le temps d'un bivouac en quête d'essence cet après-midi sur France Inter. C'était Cherry Blossom Girl de R sur France Inter dans le temps d'un bivouac.
Voilà, maintenant je vais vous montrer comment on coupe la lavande et le lavandin à la faucille. On coupait dans la journée, quand on avait fait une cinquantaine ou 100 pieds, on donnait le fil à la faucille pour aiguiser, pour qu'elle coupe bien, vraiment bien.
À l'époque, c'était effectivement des coupeurs et il y avait une dizaine de gars qui étaient imaginés dans le champ, là, qui travaillaient en plein soleil comme aujourd'hui, parce qu'on dit que le parfum monte effectivement avec le soleil, donc il fallait couper en pleine chaleur, en plein soleil.
On laissait sécher pour que ça brûle bien, que ça fasse bien de vapeur. Au bout de 3 ou 4 jours, on passait avec la remorque et on chargeait pour aller le mener à la distillerie.
L'art de couper la lavande et le lavandin en Haute-Provence, Dominique Roch, là aussi, c'est toute une histoire. Au commencement, était la lavande sauvage, c'est une plante originaire de nos régions ?
Oui, tout à fait. Ça fait vraiment partie du patrimoine de la Provence, patrimoine de la France. Et ce qui est extraordinaire, on va en parler, c'est que ça le soit resté.
Ouais. C'est-à-dire que cette lavande, avant de la cultiver, on allait vraiment la cueillir
C'était une plante spontanée, comme le thym, comme le romarin, sur les pentes de la montagne de Lure, les pentes du bas du Ventoux, dans cette Haute-Provence qui est le pays de Giono, finalement. Il y avait ce qu'on appelait des baillassières, c'est-à-dire des endroits qui étaient riches en lavande, que les gens connaissaient, se transmettaient, qui se répartissaient. Et ils allaient picorer la lavande à la faucille. Là, le monsieur en parle très très bien. C'était vraiment purement de la cueillette.
Mmh. Et alors, comment on est passé au fait de la cultiver, cette lavande ?
Alors ça, c'est l'histoire de tous les produits naturels. C'est le succès. Ils sont quelque part victimes de leur succès. Ouais. C'est-à-dire que l'odeur de lavande plaît tellement que l'industrie grassoise en veut de plus en plus, en met dans ses parfums. Et avec l'explosion de la demande de parfums fin du 19e siècle, on s'aperçoit qu'on ne va pas pouvoir rester sur cette cueillette. Et donc, on commence à dire, il faut planter de la lavande. Et avant la Première Guerre mondiale, on encourage tous les paysans du secteur à planter des champs de lavande. Ouais. Alors, en faisant ça, on n'est plus tout à fait en montagne, on n'est plus sur les pentes, on descend un peu. Donc, insensiblement, on va modifier la qualité de cette lavande, qui va devenir un peu moins fine, mais qui va néanmoins rester un très beau produit. Des distilleries presque industrielles commencent à se monter dans ces villages, Saint-Étienne-des-Orgues, Sceaux, etc. Et c'est tout un pays qui se met à vivre de la lavande d'une façon qu'on a un peu oubliée et dont on ne se rend pas compte aujourd'hui.
Oui, sauf qu'aujourd'hui, quand on se promène sur ces terrains, ce que l'on voit, et on entretient pour les touristes un peu le flou, mais ce que l'on voit, ça n'est plus de la lavande, c'est du lavandin. Quelle est la différence ?
Enfin, alors,
essentiellement du lavandin, il y a encore un peu de lavande, mais c'est surtout du lavandin.
Alors, tout le plateau de Valensole qui fait les fameuses cartes postales qu'on voit partout et qu'on admire à juste titre, c'est du lavandin. Le lavandin, c'est un hybride de lavande. Pourquoi est-ce qu'on a hybridé ? Ben, comme très souvent, pour faire des plantes qui aient plus de rendement en essence. Mmh. Alors, on a eu beaucoup plus de rendement en essence. C'est une plante qui accepte d'être moins haute en altitude, d'où la possibilité de couvrir ce plateau. Mais on a une odeur très différente. Le lavandin a une odeur camphrée, que n'a pas la lavande, et que tous les gens un petit peu familiers de ces sujets reconnaissent immédiatement.
Ah oui, ça se reconnaît vraiment, parce que finalement, le commun des mortels dont je fais partie, vraiment, si on me fait sentir de la lavande et du lavandin, je vais m'y retrouver ?
Alors, si on vous fait sentir l'un sans l'autre, c'est pas sûr.
Ouais.
On peut vous faire sentir du lavandin, vous allez dire « Oh, tiens, de la lavande
voilà. !»
Mais, vous savez, au fond, on a aussi la même chose avec la rose. Mmh. On fait sentir des roses très différentes, une rose marocaine, puisqu'on en parlait, par rapport à une rose bulgare. Si on ne les sent pas côte à côte, c'est difficile. Il faut toujours sentir les choses côte à côte. Si vous sentez une lavande fine d'altitude par rapport à un lavandin du plateau de Valensole, vous n'allez pas vous tromper, vous allez les reconnaître immédiatement.
Et ça reste, hein, vous le dites, en France en tout cas, une des odeurs préférées auxquelles la plupart des Français sont attachés, la lavande. Hein.
Oui, alors ça c'est très curieux. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur, au fond, les goûts culturel,
ouais,
autour du parfum de différents pays, de différentes nationalités. Les Allemands sont très sensibles aux notes boisées, aux notes d'aiguilles de pin, aux notes vertes. Les Français, c'est toujours la lavande. Mmh. Et puis, avec une chose extraordinaire au passage, c'est qu'il y en a une qui est totalement internationale, qui plaît dans quatre coins du monde, c'est la vanille.
On aura l'occasion d'y revenir à la vanille. Alors la lavande, c'est une fleur emblématique de la ville de Grasse, hein, vous nous l'avez dit. Elle a ouvert la porte à d'autres, hein, notamment le jasmin, qui est aussi un temps devenu une des fleurs emblématiques de la ville de Grasse. Elle revient un petit peu ces dernières années.
Oui, alors là aussi, histoire extraordinaire, le jasmin qui démarre son voyage du pied de l'Himalaya et qui, comme d'autres produits, va être transporté et développé par les marchands arabes qui parcourent le tour de la Méditerranée. Et le jasmin va réellement faire le tour de la Méditerranée. Au passage, il va s'implanter en Italie de façon extraordinaire, et puis en Espagne, sur la côte, en France, à Grasse, et très tôt, les Grassois perçoivent que là, ils tiennent une pépite.
Ouais.
Et vraiment, dès le 18e siècle, on développe des hectares de plantations de jasmin à Grasse, ce qui est phénoménal parce que le parfum du jasmin est difficile à capturer.
Et oui, il est difficile à capturer. C'est tout un art. Je vous propose d'écouter justement les explications d'une ouvrière du parfum à Grasse dans les années 1950.
Là, dans ces bains-maries, nous mettons de la graisse de bœuf et de porc. Et nous mettons les fleurs à macérer dans la graisse pendant 24 heures. C'est chauffé à la vapeur et au bout de 24 heures, la graisse est saturée de parfum. Alors les fleurs que nous avons mis la veille, on les enlève, on tourne et on met des fleurs fraîches de l'autre côté, ainsi de suite pendant 3 mois. Et nous la lavons dans de l'alcool à 96 degrés. Mais ça c'est uniquement pour le jasmin et la tubéreuse, parce que ces fleurs-là sont tellement délicates qu'elles ne supportent pas la chaleur. Seulement pendant les 3 mois, ça fait de mi-juillet jusqu'à mi-octobre, il est absolument défendu de manger de l'ail, parce que la graisse prend l'odeur de la laine et c'est perdu. Et ici, c'est une vraie punition, parce que nous aimons beaucoup l'ail. Vous vous rendez compte, plus d'aïoli, c'est la fin de tout pour nous.
Ah, on a tous les détails. C'est vrai ce que dit cette femme. Il fallait faire attention au moment de capter l'odeur du jasmin, de ne pas en capter d'autres parasites comme celle de l'ail, par exemple.
Oui, j'avais déjà entendu cette anecdote. C'est vraiment, c'est magnifique. Ouais. Ouais.
Alors là, on n'est pas dans la distillation. Hein. C'est ce qu'on appelle l'enfleurage. C'est ça, si je vous ai bien lu?
Oui, alors il y a eu deux méthodes successives pour capter l'odeur du jasmin. D'abord l'enfleurage, c'est-à-dire, ça c'est des choses qui avaient été découvertes par les Grecs et les Romains, c'est-à-dire la capacité des corps gras à extraire le parfum des fleurs. Mmh. Donc ça s'est fait d'abord avec des huiles d'olive, enfin il y a eu des tas de procédés. Les Grassois ont beaucoup développé ça et étalaient de la graisse animale, effectivement, sur des châssis en verre et mettaient les fleurs vraiment à la main jusqu'à ce qu'elles soient épuisées. Et ensuite, on raffinait ces graisses pour obtenir l'absolu de jasmin. Et puis est arrivé les découvertes du début du XXe siècle où on a su extraire les fleurs avec des solvants, ce qu'on appelle des solvants organiques. Aujourd'hui, c'est l'hexane. Et où là, maintenant, c'est le procédé utilisé pour faire des absolus jasmin.
Ouais. Et cet absolu de jasmin, quand vous parlez de cette odeur, hein, vous écrivez « L'odeur du jasmin incarne pour moi quelque chose de l'ordre de la beauté absolue. En arrivant à notre cerveau, le parfum de ces fleurs déclenche une immédiate sensation de bonheur, narcotique et envoûtant à la fois, familier et lointain. Le jasmin nous trouble, évocation de la douceur des jardins méditerranéens, mêlée à des effluves exotiques, capiteux, presque animaux. »
Oui, c'est une plante tout à fait extraordinaire. Je crois que les parfumeurs sont tous fascinés par cette odeur qui, en plus, n'est pas la même selon l'endroit où on le cultive.
C'est ça, parce que vous êtes allé jusqu'en Égypte, hein, là, au delta du Nil, pour voir ces plantations de jasmin. Ça a l'air superbe. À chaque fois que vous décrivez les lieux où poussent ces plantes, ça a l'air d'être des petits paradis.
Alors effectivement, c'est encore une fois l'histoire des voyages des matières premières avec toujours des tas de raisons. Donc le jasmin migre en Égypte tout simplement parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un terroir très favorable. Le delta est une terre d'une richesse incroyable. Il y a toute l'eau qu'on veut et surtout la main-d'œuvre est pas chère. Et donc en quelques décennies, l'Égypte devient le grand producteur de jasmin jusqu'à ce que le voyage se poursuive encore vers l'est et que le jasmin arrive et soit extrait en Inde où il l'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est le sud de l'Inde, le Tamil Nadu et l'Égypte qui se partagent la production des absolus de jasmin dans le monde.
Il y a des fleurs qui voyagent et puis d'autres qui ont l'air de rester, en tout cas des plantes qui ont l'air de rester un peu plus localisées. C'est le cas du patchouli. J'ai l'impression que c'est surtout en Indonésie qu'on va trouver du patchouli.
Alors c'est un très bon contre-exemple que vous donnez, effectivement. Encore une histoire fabuleuse, le patchouli avec des origines à la fois indiennes et chinoises fascine les Chinois. L'odeur du patchouli, qui est un truc effectivement hors du commun, fascine les Chinois depuis longtemps au point qu'ils mettaient les feuilles en poudre pour en incorporer dans l'encre de Chine. Pour donner une odeur. Et alors ce sont les migrants chinois qui vont apporter la plante avec eux dans les colonies anglaises de Malaisie, Singapour, pour développer cette plante, encore une fois, ayant connu un engouement à Londres sous forme de feuilles et dont on veut maintenant tirer l'essence. Et donc, c'est en Indonésie et sous la houlette de négociants chinois que le patchouli va se développer. C'est une plante tellement extraordinaire, tellement demandée qu'il y a une dizaine de pays qui ont essayé de s'emparer de ces marchés sans jamais y réussir. Et donc aujourd'hui, 90% de la production du patchouli reste encore en Indonésie.
Ouais. Sur l'odeur du patchouli, vous avez des descriptions étonnantes, en tout cas celles de parfumeurs que vous côtoyez, qui vous parlent de couleurs. Et pour eux, le patchouli est noir. On revient un peu à cette encre de Chine dont vous parliez, des Chinois qui parfumaient l'encre de Chine avec le patchouli. Ça vous parle, vous, une odeur qui évoque une couleur?
Oui. Il y a deux matières premières à la fois proches et très différentes, emblématiques, c'est le patchouli et le vétiver. Pourquoi ? Parce que toutes les deux sentent la terre. Elles sentent l'humus, elles sentent les sous-bois, elles ont quelque chose de forestier, quelque chose de boisé. Mais, les parfumeurs disent, le vétiver est aussi chaud que le patchouli est froid. Alors, chacun aura après ses mots pour le faire. Et donc, dans la froideur humique du patchouli, on peut voir effectivement quelque chose de noir, alors que moi, je vois beaucoup plus le vétiver en rouge.
Ah oui, c'est une histoire de température ?
Non, c'est une histoire d'imaginaire personnel.
Oui, c'est ça. Mais du coup, ça pose la question de comment on se comprend quand on évoque les odeurs avec du vocabulaire, finalement. C'est très personnel, la façon de décrire les odeurs.
Oui, mais ce qui se passe, c'est que globalement, notre connaissance des odeurs, notre appréciation des odeurs est totalement sous-développée, tout simplement, parce qu'on nous ne l'apprend pas. Les parfumeurs, eux, font des années d'études pour apprendre les odeurs. Et on s'aperçoit, et c'est tout à fait fascinant, que lorsqu'on a appris les odeurs, on sait en parler. C'est-à-dire qu'en même temps, on développe un vocabulaire très précis et très fin pour exprimer ce qu'on ressent en face d'une odeur. Alors que nous sommes démunis.
On va continuer à apprendre à en parler, suite de nos vagabondages olfactifs dans un instant. Je sens venir des effluves de bergamote, de calabre, de vanille de Madagascar et de benjoin du Laos. Nous n'avons pas fini de voyager avec vous, Dominique Roch, le temps d'un bivouac aux mille et un parfums sur France Inter.
C'était Donna Blue qui chantait Solitaire sur France Inter dans le temps d'un bivouac.
C'est un endroit unique au monde. Tout au sud de l'Italie se cache un agrume désormais très recherché, la bergamote.
Giorno, come va? Tutto bene?
La différence avec les autres agrumes, c'est sa forme. Elle est ovale. Il a la couleur du citron et l'apparence de l'orange.
Pour savoir si le fruit est mûr, il faut attendre qu'il soit jaune comme le soleil. Il a la couleur de l'or. Et quand on le tourne sur la tige, il doit tomber tout seul.
Nous voilà donc arrivés en Calabre. C'est essentiellement dans cette région de l'Italie que l'on cultive la célèbre bergamote. Je dis célèbre, on connaît tous le nom de la bergamote, on n'a pas forcément en tête à quoi ressemble le fruit. Comment expliquer qu'on le connaisse sans le connaître, ce fruit, Dominique Roch ?
Je crois que tout simplement c'est parce qu'on ne le mange pas, donc il n'est pas familier, il est resté comme ça un peu caché. C'est un fruit hybride entre l'orange amère et le citron, et dont l'amertume est très grande. Donc aujourd'hui, le jus de bergamote devient à la mode parce qu'il a des tas de mérites pour la santé, mais ce n'est pas un fruit comestible. Mmh. Donc il est vraiment dédié à la parfumerie depuis son existence.
C'est-à-dire qu'on le met dans le thé, on en fait des confiseries à Nancy, donc ce nom quand même nous est familier.
Oui, le nom est resté, mais ce n'est pas toujours de la vraie bergamote.
Ah,
parce
voilà.
Que voilà, l'essence de bergamote est un produit assez noble, assez coûteux, donc il y a des produits qui s'intitule bergamote en n'en gardant que le nom.
Au départ, quand la bergamote a vu le jour, elle n'a pas eu tout de suite ce grand succès, justement parce que un fruit au goût amer, aux couleurs assez fades. Qu'est-ce qui a lancé la bergamote ?
Alors, ce qui a lancé la bergamote, c'est la naissance de la parfumerie moderne, c'est l'eau de Cologne, inventée par les Italiens 1709. Pourquoi ? Parce que c'est le moment où on est capable d'assembler des huiles essentielles dans de l'alcool. Mmh. Et ça, c'est une révolution. Et dans ce bouquet qui est dans l'eau de Cologne, la lavande tient une part importante, mais la bergamote explose. C'est la naissance des fameuses notes de tête, ouais. Des notes des agrumes.
Ouais. Vous dites que Napoléon en raffole de cette eau de Cologne et ses troupes assurent sa diffusion. Et puis donc, au cœur de la formule, il y a beaucoup d'essence de Provence, thym, romarin, lavande, mais la bergamote joue un rôle particulier en fait. Elle n'apporte pas que son odeur, elle met en valeur les autres odeurs.
Oui, c'est ce qu'on appelle les hespéridés, les essences d'agrumes ont un rôle de note de tête, c'est-à-dire que quand on ouvre un flacon, il faut que ça explose. Les notes de tête nous explosent au nez. Et ensuite, elles continuent leur travail en étant des exhausteurs de notes qui vont arriver ensuite en les faisant reluire, en les mettant en valeur.
Ouais. Comment on obtient cette essence de bergamote ?
Alors là, on n'est plus dans la distillation, on est dans le pelage. Ouais. C'est-à-dire que l'essence, elle est dans les petites billes de l'écorce. Ouais. Et donc, il y a des machines très élaborées qui, au fil du temps, de plus en plus performantes, qui vont percer ces écorces et en récupérer l'essence par centrifugation.
Elle ne pousse quasiment uniquement en Calabre. Pour quelle raison ?
Alors, il y a une raison, des raisons objectives et des raisons de tradition.
Ouais.
Effectivement, alors on peut faire pousser des bergamotiers dans des tas d'endroits, mais la question c'est qu'est-ce qu'ils donnent ? Ouais. Est-ce qu'ils sont rentables ? En Sicile, il y a beaucoup de mandariniers, c'est le pays du citron, mais les bergamotes ne se plaisent pas. Elles ne se plaisent pas, elles se plaisent de l'autre côté du détroit de Messine.
Ouais. Donc c'est une histoire de climat, de terroir tout simplement, de terrain.
D'exposition à l'humidité, au vent.
Ouais. Mais ça, faire voyager une plante odorante et puis garder tout son intérêt, c'est pas forcément facile. On a eu le problème avec la vanille. La vanille, dont le berceau se trouve au Mexique, on a d'abord fait voyager cette plante et là, désarroi total de ceux qui cultivaient la vanille. Pas de gousses sur les plantes. Il a fallu du temps pour qu'on comprenne comment obtenir des gousses de vanille quand on n'était pas au Mexique, Dominique Roch.
C'est une des histoires les plus étonnantes et les plus extraordinaires dans l'histoire de la botanique, parce que les botanistes européens étaient des experts avec énormément de connaissances, et tout le monde se cassait un peu le nez sur cette affaire, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas compris que les fleurs de la liane en Amérique centrale étaient pollinisées naturellement par une mouche. Et donc, sans pollinisation, il n'y avait pas la mouche équivalente nulle part. On a essayé un peu dans toutes les colonies françaises, jusqu'à ce que quelqu'un, un jeune homme, à La Réunion, craque le mystère en mettant lui-même, avec une petite spatule, une épine d'oranger, en contact l'organe mâle et femelle de la fleur pour qu'elle soit fécondée et qu'elle donne des gousses.
C'était un adolescent d'une quinzaine d'années.
Ouais. Un enfant d'esclave.
Un enfant d'esclave dans une plantation. Ouais. C'est lui qui a résolu cette énigme. Mais encore aujourd'hui, dans les plantations de vanille, on pollinise à la main chaque fleur pour obtenir des gousses.
Oui, c'est extraordinaire. Les femmes malgaches font ça. Alors, la vanille est cultivée dans des petits jardins, ce n'est pas des grandes plantations, donc c'est une activité familiale. Et les femmes, dès la floraison, parce qu'il ne faut pas attendre, il faut le faire tout de suite, parcourent les lianes pour polliniser les fleurs une par une.
Et tout au long de la maturation, une fois qu'on a obtenu la gousse, ça demande encore une attention extrême pour s'en rendre compte. Allons faire un tour, justement, dans une plantation de Madagascar où une productrice prénommée Flora s'occupe avec beaucoup de soin de ces gousses de vanille.
Très très beau vanille. Ah, il est noir, ça brille. La vanille, il faut tout le temps caresser. Ça c'est... Il a besoin de caresses. Si on n'est pas caressé, il vient dur. C'est-à-dire, il vient sec. Et voilà, un petit massage de la vanille, c'est comme ça. Là, il aime bien. Voilà, comme ça. Avec la vanille, c'est beaucoup de travail. Hein. Beaucoup, je ne sais pas, le travail des feignants, ça.
Flora, une productrice de vanille malgache. Il faut masser les gousses de vanille, Dominique Roch?
Oui, les masser, les dresser, c'est très compliqué. En fait, la gousse qu'on récolte sur la liane, elle est verte. C'est comme un gros haricot vert. Et il faut lui faire... il faut laisser les processus enzymatiques se développer à travers le séchage. Séchage à l'ombre, séchage au soleil, alterné. Petit à petit, en séchant, elle acquiert ce côté soyeux, ce côté un peu gras, souple. Et il y a tout un travail, effectivement, de dresser ces gousses et de les classer par couleur, par odeur, par longueur. Travail phénoménal.
Ouais. Alors, cette productrice Flora était malgache. Aujourd'hui, c'est à Madagascar qu'on produit la plus grande quantité de vanille dans le monde. Et dans votre ouvrage, vous avez un regard très triste, en fait, sur cette production, puisque on est à Madagascar, dans l'un des pays les plus pauvres du monde. Et du coup, cette vanille est très précieuse, a une valeur importante, dont le cours fluctue énormément, et ça crée localement des drames. Vous racontez aussi ça dans votre livre, Dominique Roch.
Alors, je crois que là, on touche le sujet d'aller chercher des produits aromatiques dans les pays de grande misère. Madagascar ne sort pas de la misère, et ça, c'est absolument épouvantable. Et effectivement, quelle que soit après la richesse d'un produit, sur un fond de misère, ça marche jamais très bien. On va de crise en crise. Quand il y a de l'argent, il est dilapidé parce que les gens pensent que ça ne reviendra jamais. Quand il n'y a pas d'argent, on est au bord de la malnutrition, j'ose pas dire de la famine, mais en tout cas de la malnutrition que moi j'ai vue à Madagascar. Et donc, c'est un crève-cœur. Véritablement.
Il s'agit, écrivez-vous, d'une longue tragédie sans fin, imméritée et impardonnable. L'industrie est coupable. Elle a longtemps fermé les yeux sur les prix si bas que même les fermiers malgaches ne pouvaient pas en vivre. C'est là où votre métier a toute son importance. C'est-à-dire que vous êtes vraiment le maillon intermédiaire entre les producteurs sur le terrain qui ont tout leur savoir-faire et qui recueillent ces matières premières, et puis les parfumeurs, les industries de grand luxe qui utilisent ces matières premières dans des pays bien plus lointains.
Bah, vous l'exposez très bien. Il y a une contradiction de fond qui est assez passionnante. L'industrie du parfum, au final, dans les flacons, est une industrie du luxe. Et au départ, à l'origine, très loin, c'est une industrie agricole. Comment concilier le temps long de l'agriculture avec le temps éphémère du marketing, du parfum? C'est une équation qui n'est jamais vraiment résolue, mais je dois dire que les choses évoluent. Il y a une sensibilité, une conscience des consommateurs qui pousse les marques, et donc après toute l'industrie elle-même à faire différemment et à faire mieux. Et je pense que quand même, il y a beaucoup de progrès qui sont faits.
Et vous avez à cœur, justement, de rendre hommage à ceux qui essayent de faire mieux. Vous nous emmenez au Laos avec un agronome français qui a tout plaqué pour s'installer au Laos et pour mettre en place une façon de cultiver le benjoin. Vous allez nous rappeler ce que c'est que le benjoin et d'une façon responsable.
Oui, alors personnage hors norme, sur un sujet hors norme. Le benjoin, c'est un baume résine qui sort d'un arbre très spécifique de l'Asie du Sud-Est qui ne pousse qu'au nord du Laos et un tout petit peu au Vietnam. Et cet arbre fait ce produit merveilleux qui est connu depuis toujours. Louis XIV utilisait des teintures de benjoin. Et alors ce Français débarque au Laos, qui est un pays, il débarque dans les années 90, c'est un pays communiste, complètement fermé, où on peut pratiquement rien faire, il n'y a pas de route, tout est difficile. Il découvre ce produit, il trouve que c'est fantastique et il se rend compte que le produit a toutes les chances de mourir. Précisément à cause des conséquences de la guerre qui a affecté le Laos. Et il va s'attaquer à ce sujet en s'appuyant sur les villageois, sur leurs connaissances, sur leur volonté, incorporer la culture des arbres à benjoin dans leur culture de riz et les autres cultures. Il a mis deux décennies à réussir et aujourd'hui, la filière marche très très bien.
Votre métier de sourceur pour la parfumerie vous a fait rencontrer des gens passionnés. Vous avez aussi eu l'occasion de vous rendre dans des endroits singuliers et notamment au Somaliland, un pays très fermé qui légalement n'existe pas. C'est un voyage récent qui vous a marqué. Vous allez nous le raconter dans un instant. C'était la femme qui chantait Sakatela dans le temps d'un bivouac et la programmation musicale de cette émission est signée Valentine Chédebois.
Sur France Inter, le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
C'est fabuleux. Ça ose, c'est presque une odeur, celui-là, il a presque une odeur gustative de pain grillé aussi, de brioche. C'est hallucinant. This one is particularly good.
Oui, beaucoup plus fort.
Celui-là est vraiment très très bon. Il a une odeur d'ambre évidente, mais aussi de résine, de notes chyprées, un genre patchouli. Hein. Il est terreux, il est racinaire, il est aussi très légèrement cuiré. On retrouve la note particulière du cypriole. Enfin, c'est fantastique. Fantastique.
Bertrand Duchaufour, parfumeur, décrivant le bois de Oud. C'est du bois de Oud dont il parlait, avec toujours ce vocabulaire très joli des nez, des professionnels du parfum pour décrire les odeurs. Dominique Roch, tous les parfumeurs auraient employé les termes qu'il donne là pour décrire le bois de Oud ?
Non, chacun aurait fait différemment.
Mais comment faites-vous pour vous y retrouver ?
Bah écoutez, je crois que c'est la diversité qui crée la magie. Mais ce qui se passe, c'est que sur le bois de Oud, c'est peut-être celui où les avis sont les plus différents, les plus divergents. Parce que c'est une matière tout à fait étonnante qui mélange des notes intensément boisées avec des notes extraordinairement animales. Et pour faire simple, je vais vous dire que j'ai entendu des commentaires de parfumeurs de talent dire « c'est le meilleur bois que j'ai senti de toute ma vie » ou « c'est horrible ton truc, ça sent la biquette ».
Ah oui, pour le même échantillon.
Oui, enfin pour des échantillons, disons pour une gamme d'échantillons. D'accord. Mais de Oud, toujours du Oud, ouais. C'est-à-dire le même arbre.
On le trouve où ce bois de Oud si on veut aller le sentir ?
Alors, il y a des arbres, des aquilariens dans toute l'Asie du Sud-Est, mais on sait que le berceau de naissance de cet arbre, c'est l'Assam. C'est-à-dire des régions qui aujourd'hui sont à cheval entre le Bangladesh, le nord du Bangladesh et l'Inde.
Et alors, le bois de Oud fait partie de ces bois parfumés. Vous parlez aussi du bois de santal. À quoi doivent-ils leur odeur, ou le cèdre également ?
On ne sait pas, c'est un constat. Certains arbres sentent beaucoup plus que les autres. Le cèdre, il faut lui rendre hommage, c'est le premier parfum de l'humanité. Le ouais. Cèdre du Liban, un arbre absolument extraordinaire. Et quand on l'ouvre, les premiers bûcherons de cèdre du Liban, quand ils descendent les bois pour Salomon, pour la construction du temple, ils le font autant pour la résistance du bois que pour le parfum, pour les panneaux qui vont parfumer le temple. C'est absolument fantastique. Et puis, il y a toute une série de bois comme ça, et notamment alors, dans les grands bois historiques qui ont fasciné des civilisations, le santal. Ouais. Le santal qui est l'arbre de l'Inde, l'odeur de l'Inde. Il n'y a pas d'Inde sans bois de santal, ouais. À tel point qu'ils ont fini par tous les couper sans discernement.
Mais c'est tout le problème, parce que là, pour récolter l'odeur, on doit couper l'arbre. Un arbre, alors là, on est vraiment sur des temps longs, parce que ça met du temps à pousser un arbre. Donc là, une fois de plus, la responsabilité du parfumeur pour ne pas décimer les forêts, c'est d'y aller avec mesure.
Oui, alors là, c'est très intéressant historiquement, parce qu'il y a un point de bascule. On a longtemps été raisonnable, peut-être par manque de débouchés, par manque de moyens. Et puis arrive le 19e siècle, et le 19e siècle, c'est l'explosion de tout. C'est l'Occident qui se lance à la conquête de la nature du monde, et tout ce qu'il trouve, il le prend, il le coupe. Mmh. Et les arbres à parfum ont tous terriblement souffert du 19e siècle. Le santal a été éradiqué sous la houlette des Anglais en Inde au 19e siècle.
On va rester dans les arbres. Vous terminez, Dominique Roch, votre ouvrage avec un voyage récent qui semble vous avoir bouleversé. C'est d'ailleurs ce voyage, hein, vous dites, qui vous a donné envie d'écrire ce livre « Cueilleur d'essence ». Ce voyage, c'est au Somaliland. Où se trouve ce pays exactement ?
Voilà, alors en général, la Somalie, on considère que c'est ce qui borde la Corne de l'Afrique. Alors, il y a la Somalie ex-italienne qui est en bas, c'est là où ça va très très mal, Mogadiscio et compagnie. Et puis, il y a la bande du Nord, sur le golfe d'Aden, qui est l'ex-Somalie britannique, qui s'appelle le Somaliland. Ils considèrent qu'ils sont indépendants. Ils ont livré une guerre d'indépendance féroce dans les années 90, mais ils ne sont toujours pas reconnus par les Nations Unies.
Oui, donc, c'est un pays qui officiellement n'existe pas, donc très fermé, très difficile d'accès. Vous avez mis 30 ans à trouver le moyen de pouvoir vous y rendre. Et là, vous avez vécu une expérience qui, semble-t-il, vous a bouleversé. On récolte l'encens à partir d'arbres dans ce pays.
Oui, alors les arbres à encens sont difficiles à trouver. Ce sont de petits arbres qui vivent en altitude, en général dans des rochers, dans des falaises, très difficiles d'accès. Mais ce qui est bouleversant, c'est que ces arbres, l'endroit où ils sont, dans cette corne de l'Afrique, ce sont les mêmes depuis 5000 ans. Ça, on le sait, c'est documenté. C'est-à-dire que là, on a le témoignage d'un récit de toute l'histoire de l'humanité. Ouais. Quand la reine égyptienne Hatshepsut lance ses bateaux pour aller chercher de l'encens, c'est là qu'elle vient. Ouais. Et là, il y a 3000 ans, on gemme les arbres exactement avec le même outil et ouais. De la même façon et au même endroit ouais. Que ce que j'ai vu moi et dont j'ai été le témoin. Ouais.
Et que vous avez pratiqué aussi, puisque vous écrivez notre gemmeur. Donc les gemmeurs, ce sont ceux qui pratiquent cette petite encoche pour laisser ouais. Perler ensuite l'encens. Notre gemmeur m'explique qu'un arbre aussi jeune peut-être 10 ans, n'a pas encore été gémé. Il sort son mangaf, donc j'imagine c'est son instrument, me le met dans la main et me montre où faire la première entaille. Le vent a forci, au soleil déclinant il fait froid, ma main tremble, je décolle un morceau d'écorce, instantanément des petites billes d'un lait blanc commencent à perler du bois nu, si près du tronc, l'odeur de l'encens naissant me fouette le visage, forte et déjà si reconnaissable. Vous sentez vraiment ému, presque bouleversé par ce geste?
Oui, franchement, comment ne pas l'être? Comment ne pas l'être? C'est d'une beauté inouïe. Tout est beau. L'écorce de l'arbre est comme un velours gris, toute fine. L'outil est tout simple. Le garçon qui est avec moi et qui fait ça depuis des années fait ça de la façon la plus naturelle possible. Et moi, je découvre que simplement par le fait de décoller ce velours, on a l'odeur des débuts du parfum dans l'humanité qui m'arrive directement dans le nez. Non mais franchement, c'est totalement bouleversant.
Ouais, il y a de quoi être bouleversé. Et puis vous rajoutez une touche personnelle, c'est que vous avez beaucoup d'intérêt pour Rimbaud et son œuvre. Et vous avez le sentiment, quand vous vous trouvez là, que vous êtes sur les traces, les derniers pas de Rimbaud.
Oui, c'est un peu plus que le sentiment, parce que c'est une succession de hasards, mais je m'étais bien documenté. Et il se trouve que l'endroit où on a fait cette récolte d'encens était exactement au-dessus de la piste que suivait Rimbaud quand il allait de Harare à Aden, ce qu'il a fait un certain nombre de fois, et notamment de la caravane qui l'a ramené pour la dernière fois en Europe pour y mourir. Et donc, ce que j'avais sous les yeux, c'était ce paysage qui n'a pas bougé, qui est totalement intact. Et j'ai eu véritablement une hallucination de voir cette caravane passer sous mes yeux pendant que je respirais l'encens.
C'est-à-dire que de Hatshepsut à Rimbaud, vous avez l'impression que dans ce lieu, le temps s'est immobilisé.
Tout à fait. Je l'ai écrit dans le livre, mais c'est une impression que j'ai ressentie physiquement.
Si vous aviez la possibilité de sentir une odeur d'hier tombée dans l'oubli, ce serait laquelle, Dominique Roch?
On parle beaucoup, on a raison, des fleurs muettes. À Grasse, il y a eu une époque où on faisait du chèvrefeuille. Pour moi, le chèvrefeuille, c'est une des plus belles odeurs qui existent. L'odeur de la giroflée. Des choses, l'odeur du lilas, sont des odeurs toutes simples de fleurs qu'on ne sait pas vraiment capturer aujourd'hui dans leur forme naturelle. Et moi, je rêve, et je sais que des gens y travaillent, de faire revivre ces odeurs, de faire parler ces fleurs muettes.
Merci Dominique Roch. Votre livre s'intitule « Cueilleur d'essence » aux éditions Grasset. Il vient d'être édité en poche. Un grand merci à vous d'être passé par notre bivouac, Dominique Roch.
Merci.
Le temps d'un bivouac replie sa tente. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédents épisodes en podcast sur franceinter.fr ou avec l'application Radio France. Et pour nous laisser un message, il y a bien sûr nos pages Instagram et Facebook. À samedi prochain pour de nouvelles aventures.